Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani.
Bonjour, bienvenue à Mythes et complots. Christian, salut.
Salut Jeff.
Aujourd'hui, un sujet, disons, de prédilection.
En fait, un des sujets les plus populaires auprès des auditeurs, ouais. Et c'est vrai ici au Québec, c'est vrai aussi un peu partout à travers le monde, les deux sujets qui regroupent le plus de gens lorsque l'on parle de phénomènes étranges et mystérieux, ce sont les ovnis et les phénomènes de fantômes. Et tu sais, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on regarde sur le plan de la statistique, même dans les phénomènes étranges, il y a une distinction chez les hommes et les femmes. Par exemple, les hommes, on va retrouver davantage d'hommes qui vont s'intéresser à la question des ovnis que de femmes. Et on va trouver davantage de femmes qui vont s'intéresser, par exemple, à des phénomènes de la voyance ou ce genre de trucs. Oui. On dirait que les femmes sont davantage intéressées par des phénomènes qui font appel aux émotions, alors que les hommes sont intéressés par des phénomènes, disons, plus mécaniques.
As-tu
une soucoupe volante? Y a-tu un moteur là-dedans? Puis ça marche comment? C'est bon. On retrouve davantage d'hommes. Mais bon, ben aujourd'hui, on va plaire à ces messieurs parce que notre sujet aujourd'hui, on va faire notre top 5 des observations d'OVNI au Québec.
Oui, et Christian, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Tu sais qu'il y a certains films cultes que j'avais pas vus.
Oui.
Indiana Jones, par exemple.
Oh, ne le dis pas trop fort.
Ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais là, j'ai vu E.T.
Oh!
Au complet, récemment. Quel excellent film.
Oui, oui, effectivement. Et à l'époque, ça avait été presque... C'est un film qui a marqué une génération. À l'époque, E.T. Était partout. Et il y avait eu toute une sorte de campagne de merchandising, donc des produits dérivés E.T. Moi, je me rappelle, quand le film est sorti, on est dans les années 80, début des années 80, on pouvait pas entrer dans un magasin sans buter sur une tasse E.T., un oreiller E.T., une couverture E.T., il y en avait partout E.T. Et effectivement, c'est un excellent film qui rejoint un peu cette vie. En fait, l'idée que Spielberg voulait donner d'abord avec E.T., c'est on ne juge pas un livre à sa couverture.
Oui.
Parce que notre première réaction en voyant E.T., c'est « il est laid en maudit ».
Sauvé en courant.
Ah, ouais. Et éventuellement, on apprend à aimer E.T. Donc, on nous montre bien qu'au-delà de la couverture, il y a quelque chose. Et le message est bien livré dans E.T.
Oui, il est gentil. Il y a des pouvoirs de guérison en plus.
Oui.
Une société probablement très avancée.
Et de très longs doigts.
Oui. Donc, le top 5 des ovnis au Québec. Et est-ce que vous avez déjà vu des ovnis? Je donnerai les numéros de téléphone tantôt. D'abord, plusieurs signalements dans Portneuf.
Oui, bon, ben, j'ai dit avant d'aborder cette question des ovnis, ce serait le fun de faire un petit retour sur l'histoire des ovnis au Québec. Et cette publication, la semaine dernière, dans un journal de Portneuf, où on nous dit qu'il y aurait eu plusieurs signalements d'ovnis dans la région de Portneuf et dans le comté de Lotbinière. Alors, je me suis dit, tiens, voilà une belle occasion de revenir un peu sur la thématique ou le sujet de l'ufologie québécoise.
Et pourquoi Portneuf?
Ben en fait, ce qu'on apprend dans cet article, c'est que plusieurs observations auraient eu lieu dans ce secteur-là, et ces observations auraient été signalées à un groupe au Québec qui s'appelle le GARPA, hein, le groupe d'entraide et de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Okay. Et je vais revenir d'ailleurs sur ce groupe-là, qui est dirigé par un type qui s'appelle Yann Vanney. Et donc, le groupe en question ont reçu plusieurs signalements d'OVNI, et c'était en fait une entrevue qu'ils accordaient, que l'un des membres accordait aux journalistes locaux, et disant, bon, ben, au cours des derniers mois, on a reçu plusieurs observations d'ovnis de la région de Portneuf ou du comté de Lotbinière. Et là, bon, évidemment, on nous parle de ce groupe, le GARPAN. Ben, qui est-il? En fait, ce groupe, il appartient à cette communauté ufologique québécoise, une communauté, en fait, qui existe depuis les années 70.
OK.
En fait, avant, dans les années 60, il y avait des gens qui s'intéressaient à la question des ovnis, mais beaucoup s'y intéressaient de manière personnelle. Donc, c'était une démarche personnelle. Il y avait quand même, au milieu des années 60, il y a un type qui s'appelle Jean Cazot, pratiquement une légende au Québec, ce Jean Cazot, même si je suis pas toujours d'accord avec son discours. Mais donc, ce Jean Cazot va créer, au milieu des années 60, je crois que le nom du groupe, c'était la SRPM, la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux. Alors, Cazot est adolescent, il s'intéresse à ça, il lance donc ce premier groupe. Mais vraiment, pour la question des ovnis, là où on va gagner un peu en lettres de noblesse, si je peux dire, il faut attendre les années 70 et l'avènement d'un groupe qui s'appelle UFO Québec. Ce qui est particulier de ce groupe UFO Québec, c'est que les dirigeants, je pense par exemple à Widowville, Marc Leduc, et moi j'ai fait mes classes, mes premières classes au sein de cette organisation UFO Québec. Ce qui était particulier de ce groupe, c'est que les dirigeants avaient tous, ou la plupart, avaient une solide formation académique. Widowville, par exemple, de mémoire, travaillait pour Hydro-Québec. Il était attaché notamment à la centrale, travaillait sur des projets à la centrale de Gentilly, centrale atomique à l'époque. Donc, tu vois un peu le genre de rhétorique à laquelle ce bonhomme-là se livrait. Et il y avait autour de lui d'autres gens qui avaient aussi une formation académique assez soutenue. Donc, je commence mes œuvres moi-même dans ce cercle de UFO Québec, groupe très sérieux qui va exister jusqu'au début des années 80. Ensuite, il y aura d'autres groupes aussi qui vont exister au Québec et des groupes qui vont quand même... Le travail qui est fait, il faut quand même se rappeler que ce sont souvent des groupes d'amateurs. Et les amateurs, évidemment, une investigation menée par des amateurs présente plusieurs talons d'Achille. Par exemple, ces gens-là, ils s'intéressent aux ovnis parce qu'ils y croient. Si ces gens-là ne croyaient pas aux ovnis ou aux extraterrestres,
Christian,
par exemple.
Parenthèse, par rapport à la croyance aux ovnis, il y a des agences gouvernementales, on en a déjà parlé à l'émission, qui documentent les ovnis. C'est le cas, par exemple, en France. C'était le cas en Grande-Bretagne. Et c'est prouvé qu'il y a des objets volants non identifiés.
Ouais, absolument. Donc,
ça existe.
Même quand il y a eu les grandes commission d'enquête aux États-Unis, lorsqu'ils ont fermé les livres, on ferme les livres en décembre 1969, les conclusions sont publiées début 1970 et l'armée est explicite là-dessus. C'est-à-dire qu'on a étudié 12 613, 615 cas, quelque chose comme ça, et un certain nombre d'entre eux sont demeurés non identifiés. Même si on avait beaucoup d'informations, parce qu'on avait une catégorie cas insuffisamment détaillée, l'armée dit non, les cas qu'on vous évoque aujourd'hui, les cas non identifiés, ce ne sont pas des cas insuffisamment détaillés. Ce sont des cas pour lesquels on a beaucoup d'informations. Malheureusement, on n'arrive pas à tirer une conclusion définitive. Mais c'est vrai que, et tu l'as bien mentionné, qu'au moment où on se parle, dans les grands pays industrialisés, il n'y a aucun organisme étatique qui collige l'information sur des ovnis, mis à part la France. Il faut savoir que la France a une espèce de NASA, le Centre national des études spatiales, qui se trouve à Toulouse. Et au sein de ce bureau, de cette NASA française, il y a un tout petit bureau qui est géré par, généralement, c'est un ingénieur en aéronautique qui est sur le bord de sa retraite. C'est pratiquement une de garage. Tu as fait ton travail et là, finalement, tu n'es pas encore à la retraite. Fait qu'on va t'envoyer dans ce bureau-là qui s'appelle aujourd'hui le GEPAN, Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, c'est une voie de garage en fin de carrière. Donc, on a un ingénieur en aéronautique généralement qui dirige ce bureau-là, une secrétaire. Et eux, ce qu'ils font simplement, c'est d'articuler que l'information passe de la gendarmerie vers le Centre national et également les informations qui sont colligées par le ministère de la Défense. Donc, on fait un gros travail de récupération et ces dossiers-là sont accessibles. Aujourd'hui, les gens qui nous écoutent peuvent aller les télécharger en ligne. C'est le GEPAN, GEIPAN, Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux. C'est le seul organisme étatique qu'on retrouve dans les grands pays industrialisés. Pour le reste, comme au Québec, on est en présence d'organismes civils qui sont menés par des gens, des amateurs qui croient à ces sujets-là. Donc, lorsqu'ils vont enquêter sur des ovnis, bien évidemment, il y a toujours un peu un billet quelque part. Parce que, d'un côté, ce ne sont pas des enquêteurs professionnels. Même certains d'entre eux se sont donné une espèce de règle ou de code en disant on va mener une enquête de telle ou telle manière. Ça reste quand même du travail amateur. Et ces gens-là, ils y croient. Parce que s'ils ne croyaient pas aux ovnis ou aux extraterrestres, tu comprends qu'ils ne passeraient pas leur dimanche après-midi à colliger le témoignage de M. Tartampion sur une histoire de soucoupe volante. Ils iraient jouer au golf. Donc, il y a déjà ce biais-là en partant. Mais ces gens-là font un travail du mieux qu'ils peuvent. Le meilleur côtoie souvent le pire, en ce sens que ces organismes-là sont composés de bénévoles. Et parmi ces bénévoles, bien sûr, il y en a qui ont des formations académiques, des formations techniques, alors que d'autres n'ont même pas un diplôme de secondaire 5. malheureusement, l'information ou la façon dont l'information est colligée, le décantage de l'information est souvent aussi fonction de la qualité de l'enquêteur et de ses propres connaissances. Donc, ces gens-là font un travail. Bon, j'en reviens un peu rapidement parce qu'on fera pas l'histoire de toute l'ufologie québécoise. Mais donc, dans les années 70-80, il y a des groupes. Il y a UFO Québec. Je pense aussi à la centrale de compilation ufologique du Québec qui était dirigée par un type qui était très actif sur le terrain, un type qui s'appelait François Bourbeau. On avait aussi, beaucoup de gens se rappellent peut-être aussi de Richard Glenn, ésotérisme expérimental, qui a marqué l'histoire des ovnis au Québec. Ces gens-là ont fait un travail de collecte d'informations qui est remarquable, puis il faut le souligner, parce que sans ces gens-là, quelle que soit la qualité de l'investigation, la qualité du décantage de l'information, même si l'approche était parfois bancale, ces gens-là ont fait un travail qui a permis de préserver, disons, la mémoire insolite du Québec. Sans les François Bourbeau, sans les Richard Glenn, sans les Jean Cazot, ces informations aujourd'hui n'existeraient plus, on les aurait oubliées. Elles ont parfois fait un entrefilet dans un journal local et après on n'en parle plus. Aujourd'hui, si on sait que ces observations-là se sont produites, c'est parce que ces gens-là étaient là, ils les ont colligées, les ont publicisées. Certains d'entre eux ont écrit des ouvrages dans lesquels ils les ont rapportés et ces ouvrages-là continuent aujourd'hui de nous alimenter. L'association, aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a deux associations, disons, plus actives sur le terrain. L'association québécoise d'ufologie qui dirigé par un type qui s'appelle Gilles Milot, et ce Garpin qui est dirigé aujourd'hui par Yann Vadney. Ces gens-là, encore une fois, on parle ici d'organismes faits par des amateurs. Ce travail-là est parfois très bon, parfois moins bon, mais enfin, ces gens-là ont le mérite de se déplacer et de faire les investigations.
Et finalement, donc, pourquoi dans Portneuf, en quelques mois, on a observé plusieurs ovnis?
Ben, en fait, je sais pas pourquoi plus dans Portneuf qu'ailleurs. C'est vrai que les gens me posent souvent la question.
Y a-t-il un groupe d'ufologues qui est basé à Portneuf?
Ben, ça, c'est souvent, dans certains cas, je sais que chaque année, par exemple, il y a une sorte de sondage statistique qui est publié chaque année, et depuis les deux ou trois dernières années, le Québec ressort comme étant la province où il y a le plus d'observations d'OVNI. Pour faire attention à ce genre de rapport statistique, la raison n'est pas tout à fait représentative des observations canadiennes. En fait, pourquoi le Québec ressort davantage, c'est qu'au Québec, on a plusieurs organisations qui s'intéressent aux OVNI. J'ai mentionné le Garpin, l'Association québécoise d'ufologie. Ces gens-là sont très actifs et ils sont omniprésents sur le terrain. Donc, ils colligent les informations. Alors qu'en Saskatchewan ou en Alberta, il y a moins de groupes actifs. Donc, les gens qui voient des OVNI ne savent pas trop à qui les rapporter. Les observations tombent souvent dans l'oubli, alors qu'au Québec, on a quand même ces mécanismes qui font que le Québec collige ses observations et donc elles sont plus connues. Cela étant dit, est-ce qu'il y a un endroit au Québec où on observe plus d'OVNI? Parce que les gens me posent souvent cette question-là, parce que là, on parle de Portneuf.
La meilleure place, là, pour...
La meilleure place, là. Et ce n'est pas une invention. C'est réellement dans la région du Mont-Saint-Hilaire. Et pourquoi dans la région du Mont-Saint-Hilaire? Écoute, on s'entend, là, c'était un travail statistique qui a été fait au début des années 80 par un type qui s'appelait Jean Vézina et un autre qui était Marc Leduc. C'était deux personnes qui avaient une formation académique. Marc Leduc travaillait dans le domaine de l'éducation. Jean Vézina était à l'époque ingénieur forestier. Et ce qu'ils ont fait, entendons-nous, là, c'est pas plus sérieux qu'il faut, là. Bon, ils le font, en fait, pour faire une sorte de gymnastique intellectuelle. Ils prennent trois, grosso modo, là, je te résume un peu leur méthode. Ils ont pris d'abord des observations d'objets volants identifiés. Donc, des observations qui avaient été rapportées comme non identifiées, mais après enquête, on avait pu déterminer de quoi il s'agissait. Okay. Donc, ils ont pris ces observations. Imagine-toi une carte du Québec et ces observations seront donc marquées par des points jaunes. Ceux-là, c'est les points jaunes. Ensuite, on a pris des observations d'objets volants non identifiés, mais insuffisamment détaillés ou trop flous pour pouvoir tirer une conclusion définitive. Donc, ce sont les observations qu'on a reproduites sur une carte avec des points bleus. Et ensuite, on s'est dit, on va prendre les observations, les vraies, les dures de dures, les observations d'objets volants non identifiés qui, même après enquête, ont résisté aux analyses, qu'on a décidé de marquer sur la carte avec des points rouges. Et là, ce que l'on a constaté, c'est que les premières observations, donc les points jaunes et les points bleus, les objets volants identifiés, puis des objets volants pas identifiés, mais quasiment identifiés, ces observations étaient réparties à travers le Québec de manière tout à fait aléatoire au prorata. Donc, il y avait plus d'observations à Montréal qu'à Chibougamau, mais somme toute, il n'y avait pas de distinction, de modèle qui ressortait. En revanche, Les observations d'OVNI, les vraies observations d'objets volants non identifiés, curieusement, semblaient se déplacer en fait sur 5 ou 6 corridors, comme s'il y avait des corridors aériens, un peu comme dans le domaine de l'aviation. Et ces 5-6 corridors se croisaient, hein, le carrefour était dans la région de Belœil-Saint-Hilaire. Donc, on n'a pas refait cet exercice statistique. Peut-être qu'on arriverait à d'autres conclusions aujourd'hui. Ça n'était fait qu'une seule fois. Donc, insuffisant pour en tirer une véritable valeur scientifique. Mais si on se fie sur ces données qui avaient été publiées au début des années 80, effectivement, l'endroit au Québec qui était le plus propice à une observation d'OVNI, région de Belœil-Saint-Hilaire.
En plus, c'est le fun. Tu montes sur le Mont-Saint-Hilaire, puis là, tu peux attendre.
Puis évidemment, ça a été récupéré. Tu comprendras que ça a été récupéré par Richard Glenn, qui lui-même vit au Mont-Saint-Hilaire. Alors, ça le plaçait directement dans l'antre des extraterrestres ou des intraterrestres qui vivent dans le Mont-Saint-Hilaire.
Merci, Christian. Dans un instant, on entame le top 5 des observations à OVNI au Québec. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Avez-vous déjà vu des OVNI? On revient dans 3 minutes.